18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. On vous retrouve, Romain Zouy. Bonsoir.
Bonsoir Amélie et merci à vous. On va parler de l'avenir de la relation entre l'Europe et les États-Unis ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Zouy.
Et c'est une relation qui a du plomb dans l'aile, c'est peu de le dire. Les messages d'alerte se multiplient actuellement. La sécurité européenne est à un tournant, c'est ce qu'écrit sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à son arrivée aujourd'hui à Paris, où elle participe à une réunion qui a été convoquée en urgence par le président français Emmanuel Macron, avec plusieurs dirigeants de pays clés européens. Alors les origines de ces bouleversements outre-Atlantique sont nombreux, mais le plus important, c'est la volonté des États-Unis vient de se passer des 27, tout simplement, à la table des négociations sur la fin de la guerre en Ukraine. D'où notre question ce soir, est-ce que l'Europe peut se détourner des États-Unis? Entre cette situation et puis la hausse des tarifs douaniers qui a été évoquée, est-ce que Donald Trump est en train d'enterrer la relation transatlantique? Mais l'Europe peut-elle s'affranchir des États-Unis ou se tourner? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités, à mes côtés en studio, Jean-Baptiste Velu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, spécialiste de la politique commerciale américaine et cofondateur de l'Observatoire de la politique extérieure américaine. Face à vous, Elvire Fabry, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheuse senior sur la géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Notre troisième invité, à vos côtés en studio, Vincent Vicard, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, responsable du programme Analyse du commerce international. Merci beaucoup à vous trois d'être venus en studio pour répondre à l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors, première question, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui s'est passé ce week-end? On pourra aussi évoquer ce qui s'est passé les jours précédents. Ce week-end, c'était la conférence de Munich sur la sécurité. Il y a eu un discours à charge qui restera historique. Prononcé par le vice-président américain J.D. Vance contre les Européens. Il a accusé les Européens de malmener la démocratie, la liberté d'expression. Quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer sur la relation transatlantique, Elvire Fabry?
Écoutez, si on revient un peu en arrière et qu'on pense à la première présidence de Donald Trump, 2016, et celle-ci, qui vient de commencer il y a à peine 15 jours, mais déjà, enfin, un peu plus de 15 jours, mais
bientôt
déjà...
Bientôt
un mois, alors déjà, mais les événements vont si vite que ça se précipite. La vraie différence, c'est que c'est la situation de la guerre en Ukraine. Et on le sait, pour les Européens, ça veut dire d'abord une dépendance aux garanties de sécurité qu'apportent les États-Unis à l'Ukraine par leur soutien en armement, en logistique, pour toute l'armée ukrainienne, et du coup indirectement aussi pour les Européens en termes de garantie de sécurité au sens plus large, puisque c'est une guerre qui se passe à nos frontières. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un changement profond pour les Européens dans la façon dont ils peuvent répondre aux mesures agressives de Donald Trump sur le plan commercial, et on s'y attendait puisqu'on le sait que sa focalisation, elle est sur l'utilisation de l'outil des barrières commerciales, augmenter les droits de douane sur les importations américaines, c'est-à-dire négocier finalement l'accès au marché américain contre des objectifs qui, à l'époque, en 2016, étaient de réduire le déficit commercial américain, le fait que les Américains consomment beaucoup plus et donc importent beaucoup plus qu'ils n'exportent, et qui n'a cessé de croître et qui atteint aujourd'hui quasiment 1 000 milliards de dollars. Mais la vraie différence, c'est qu'on voit aujourd'hui un Donald Trump qui veut imposer des droits de douane de manière massive, avec des objectifs qui ne sont pas simplement économiques, mais qui sont politiques. Mmh. Donc on est en train de rentrer directement, ça y est, dans un domaine, une phase de coercition économique.
Ouais.
Et ce qui change complètement le jeu pour les Européens, c'est, comme vous l'évoquiez, le discours de J.D. Vance qui enfonce le clou ce week-end,
ouais,
en n'abordant pas des enjeux de sécurité et l'avenir de l'Ukraine, mais finalement, et tout ça dans un contexte d'une conférence à Munich qui est consacrée aux enjeux de sécurité et de défense, et en parlant complètement d'un autre sujet qui est globalement le fonctionnement de la démocratie européenne, le fonctionnement politique, et en s'en prenant à l'objectif des élections allemandes qui vont avoir lieu dans une semaine, et en soutenant la liberté de parole dans l'Union européenne pour faire avancer ouais. les extrêmes droites un peu partout dans les États membres. Et on voit très bien l'objectif qu'il y a derrière, qui est à travers la poussée de ces extrêmes droites, qui, on le sait, ne sont pas pro-européennes, sont contre les réglementations européennes ouais. de manière générale, de briser l'unanimité, la cohésion des Européens, de découdre les réglementations européennes, et en particulier dans le domaine du numérique, pour faciliter l'expansion des grandes entreprises américaines du numérique. On les connaît, les GAFAM, et en commençant par l'entreprise d'Elon Musk.
Alors, effectivement, Jed Evans dénonçait les excès de la réglementation européenne et le symbole, sans doute, de cette guerre idéologique, entre guillemets, en tout cas ce bras de fer lancé par les États-Unis, c'est le fait qu'il se soit entretenu avec la candidate de l'AFD, donc le parti d'extrême droite aux législatives en Allemagne, et non pas avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Jean-Baptiste Velu, j'aimerais qu'on évoque, on a campé le décor, je voudrais qu'on évoque la relation États-Unis-Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pèse économiquement en quelques mots, pour qu'on comprenne.
Alors, d'une part, je pense qu'il est important de rappeler que le commerce n'est qu'une partie de cette économie transatlantique qui pèse pour des milliers de milliards d'euros dans l'économie mondiale. Selon certaines mesures, c'est une des plus grandes économies, cette économie transatlantique dans le monde. Rappelons que le commerce représente une partie de cette économie, hein, c'est les investissements pèsent bien plus. Les filiales d'entreprises européennes aux États-Unis et les filiales américaines en Europe représentent 4 fois plus que le ouais. commerce. Et c'est vrai que ces débats souvent se focalisent sur le commerce alors que les deux économies sont énormément ouais. intégrées, à la fois sur le plan des services, des biens et puis de l'économie numérique.
D'un point de vue global économique, États-Unis-Europe, c'est 43% du PIB mondial. Mm-hmm. Je crois que tout est résumé là-dedans. Mais qui est dépendant de qui ? Qui exporte quoi ?
C'est une interdépendance. Et en fait, ce sont deux économies développées qui échangent des biens, finalement, qui se recoupent. Hein. Il y a aussi, que ce soit des biens d'équipement, que ce soit des produits pharmaceutiques, des services. Donc les Américains dominent l'économie des services, comme on le sait, au niveau mondial. Il y a une dépendance dans ce domaine au niveau européen, mais il y a clairement une interdépendance de ces deux économies qui pèsent, si on parle de filiales encore une fois, qui pèsent 5 millions de travailleurs de chaque côté de l'économie. Donc il faut aller au-delà, je dirais, de ce rapport de force et de ce déficit commercial qui ne reflète pas tout à fait la complexité et l'interpénétration de ces ouais. deux économies.
Le déficit commercial, c'est près de 200 milliards d'euros.
Oui. Alors sur les
biens... C'est ce qui, effectivement, en fout, entre guillemets, Donald Trump et qui a dit « on va... augmenter les tarifs douaniers, à moins que l'Europe achète à grande échelle notre pétrole et notre gaz. »
Oui, alors il y a cette forme de dépendance énergétique, effectivement. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la crise ukrainienne est en toile de fond, ce qui a poussé l'Europe vers l'énergie américaine, l'Europe étant devenue le premier acquéreur de pétrole américain et de gaz liquéfié. Donc effectivement, on peut difficilement envisager que l'Europe se détournerait ou imposerait des sanctions au secteur exportateur américain dans ce domaine, qui les rendrait plus vulnérables vis-à-vis d'autres puissances.
Ça va être un des enjeux qu'on va évoquer dans ce débat. Est-ce que l'Europe peut s'affranchir des États-Unis ? Parce qu'évidemment, la relation transatlantique, elle est très abîmée. Vincent Vicard, vous qui êtes économiste, Jean-Baptiste Velu parle d'une relation interdépendante. Il n'y en a pas un qui est plus dépendant que l'autre entre l'Europe et les États-Unis ?
Alors, c'est toujours difficile à dire. Typiquement, Donald Trump voit les dépendances par le commerce de biens. Mais il y a beaucoup d'autres choses, en fait, comme ça a été rappelé juste avant. Donc, effectivement, sur le commerce de biens, les États-Unis sont moins ouverts, de manière générale, sont moins ouverts au commerce que l'Union européenne. Parce que c'est une plus grande économie et que l'Union européenne a tendance à être, effectivement, plus ouverte au commerce. Le commerce reste une part limitée du PIB européen, mais il n'empêche que l'Union européenne est plus ouverte et voilà, dépend notamment des États-Unis pour ses exportations. Les États-Unis, ça représente à peu près 20% des exportations extra-européennes pour l'ensemble de l'Union européenne. Là où du côté américain, ça représente un peu moins, et pour le coup, ils commercent plus avec leurs voisins proches, donc sur le commerce de biens. Mais quand on regarde le commerce de services, par exemple, vous avez évoqué le déficit commercial sur le commerce de biens, bah, il y a un excédent commercial sur le commerce de services. Et là, par exemple, il y a toutes les entreprises du numérique américaines qui dépendent de manière très importante de l'économie européenne. Donc ces questions de dépendance, elles sont assez difficiles à trancher, parce que finalement, si on a aussi une rhétorique aussi offensive sur les régulations européennes, sur la taxation des entreprises américaines en Europe, c'est bien parce que les entreprises du numérique américaines dépendent des consommateurs européens pour une part importante de leurs revenus. Voilà, pour un certain nombre d'entre eux, ça représente plus du quart, plus du quart de leurs revenus sur le marché européen. Donc c'est le deuxième marché, et un deuxième marché extrêmement important, juste après les États-Unis. Et dans la concurrence ou l'opposition qu'il y a en toile de fond quand même entre les États-Unis et la Chine, il y a les Européens, et le marché européen est un marché extrêmement important pour les entreprises américaines. Donc voilà, il y a des dépendances, et la question un peu est aussi du côté européen, comment on se saisit ce sur quoi les Américains sont dépendants de nous. Par exemple, ça a été évoqué par la Commission européenne, taxer éventuellement en représailles, taxer les entreprises du numérique, les GAFAM, détaxer en Europe en représailles d'éventuelles sanctions et droits de douane sur les importations américaines de biens.
Mais là, est-ce que vous ne parlez pas de relations commerciales finalement jusqu'au 20 janvier ? Est-ce que tout n'a pas changé depuis le 20 janvier quand vous parlez de relations commerciales entre les États-Unis et leurs voisins ? Maintenant, il y a 25% de tarifs douaniers en plus avec le Mexique, avec le Canada, côté États-Unis, et Donald Trump veut faire la même chose avec l'Europe. Ça va changer le rapport de force. Qu'est-ce que ça peut changer ?
Alors, d'une part, déjà, les 25% vis-à-vis du Mexique et du Canada, ils sont pas encore mis en place. Ils ont été repoussés. Pour le Mexique et le Canada, c'est extrêmement coûteux, effectivement. 25% de droits de douane vis-à-vis de leur principal partenaire commercial, c'est extrêmement coûteux. Vis-à-vis de l'Union européenne, faut pas oublier que l'Union européenne, encore une fois, c'est un beaucoup plus grand pays, et c'est un pays qui dépend moins des États-Unis pour son commerce extérieur. Donc le commerce avec les États-Unis, le commerce de biens, ça représente à peu près les exportations de biens, 3% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne. Donc voilà, ça peut avoir un impact, mais c'est pas un impact aussi important que celui pour le Canada, que celui pour le Mexique. Mais oui, il y a une différence. Alors en fait, elle était préexistante. On n'a pas basculé dans un autre monde du jour au lendemain avec l'élection de Donald Trump. Cette logique d'utilisation des liens commerciaux et de dépendance du commerce qui crée des dépendances plutôt que créer des gains, ce qui était vraiment la logique qui prédominait depuis le début des années 90, à cette période qu'on a appelée d'hypermondialisation. Cette logique de gain au commerce, elle a déjà basculé depuis au moins une dizaine d'années vers une logique de vulnérabilité, de dépendance. Alors jusqu'à maintenant, du point de vue européen, on regardait plutôt du côté de la Chine. À raison, parce qu'il y a eu des épisodes de coercition vis-à-vis de la Lituanie, par exemple, assez importants. Mais aujourd'hui, clairement, on a un deuxième partenaire majeur, enfin qui était un partenaire en tout cas, et qui va sur ce versant d'utiliser les liens commerciaux dans une relation de coercition pour imposer effectivement un agenda politique et obtenir des choses en échange.
Face à cette situation qu'évoque Vincent Vicard, Elvire Fabry, est-ce que tout simplement l'Europe peut s'affranchir économiquement des États-Unis face au traitement qui lui est imposé, je dirais, par l'administration Trump ?
Alors, je pense que la mise en perspective là, qui vient d'être faite sur notre dépendance aux États-Unis est essentielle, parce que ça permet de reproportionner l'enjeu. Et face à un président américain jupitérien qui s'en prend à ses partenaires économiques les plus proches, à ses alliés historiques les plus proches, mais aussi plus globalement à la mondialisation, parce qu'il a envie en fait, de réorganiser au profit des intérêts américains, tout le fonctionnement du commerce américain. Donc c'est très important d'avoir ça en tête parce que il faut pas perdre de vue aussi ce que représenterait éventuellement des nouveaux droits de douane sur les exportations européennes par rapport aux barrières que l'on a même au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on parle toujours d'un marché unique, mais qui n'est pas un marché fini, accompli. Le Fonds monétaire international a évalué que les barrières qui restent encore dans nos échanges de biens entre États membres pour les biens représentent à peu près 40%, l'équivalent d'un droit de douane de 40%. Pour les services, un équivalent de 110%, parce qu'on le sait, le marché des services européens n'est pas, est très loin d'être un marché unifié. Ce sont 27 marchés à poser. Et on a une priorité qui est d'approfondir ce marché unique pour compenser éventuellement déjà ce que l'on pourrait affronter du côté américain. Alors maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, parce que vous disiez, est-ce qu'on peut s'affranchir du marché américain ? Non, de même qu'on ne peut pas s'affranchir du marché chinois. Et on voit que pour certaines entreprises, ça représente aujourd'hui 30-40% en effet de leur bénéfice annuel.
Ça veut dire que l'Europe va devoir marcher au rythme des États-Unis finalement ? C'est les États-Unis qui donnent le tempo de la relation ?
Non, parce que autant les Européens, depuis quelques mois, quelques semaines, étaient plus dans une posture de négociation pour essayer d'abord d'éviter une logique d'escalade de mesures coercitives. Et enfin, de mesures agressives, et en effet, en achetant plus de gaz liquéfié ou plus d'armement, autant on voit que là, on est en train encore une fois de basculer dans quelque chose de beaucoup plus coercitif, et qui peut toucher toute une série d'enjeux. On évoquait les réglementations, ça peut être des politiques fiscales des États membres, puisque maintenant il s'agit aussi de l'application de la TVA qui est remis en cause. La réponse européenne aujourd'hui, elle doit être forte. Et elle doit être forte pour éviter justement que ça aille toujours plus loin. Mais elle doit être forte à trois niveaux. C'est-à-dire que les priorités, c'est le renforcement de la compétitivité européenne. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment une priorité. Ce que je vous disais à propos de l'approfondissement du marché unique. Mais il y a beaucoup de mesures à prendre. La deuxième, c'est la réponse bilatérale aux offensives américaines. Et là, on a toute une série d'instruments de politique commerciale.
Anti-coercition.
Y compris anti-coercition, mais ce sont des nouveaux instruments qu'on n'avait pas pendant la première présidence de Donald Trump et qu'on peut utiliser un ou de manière cumulative. Il faut voir comment on les utilise. Et puis il y a un troisième niveau de réponse qui est au niveau multilatéral, l'effort de coordination qu'il faut que l'on parvienne à faire avec d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce pour éviter une déconstruction rapide de toutes les règles du commerce international et pour éviter que les mesures aussi que prennent les autres n'aient des effets négatifs aussi sur nous et de même nous sur eux.
Jean-Baptiste Velu, est-ce que ces outils qu'évoque Elvire Fabry, plus de compétitivité européenne, plus de multilatéralisme, effectivement, l'Union européenne a un instrument anti-coercition. Pardon, hein, je ne vais pas remettre en cause ce que vous dites, mais est-ce que c'est un beau discours qui tend à penser que l'Europe est plus forte qu'elle n'est aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a vraiment ces moyens de répondre à la guerre commerciale qui est lancée par les États-Unis ?
Alors oui et non, je rejoins ma collègue pour dire que effectivement on est dans un cas de figure différent d'il y a presque une dizaine d'années maintenant, et c'était d'ailleurs le marchandage de Donald Trump qui avait incité la Commission, rappelons-le, à créer cet instrument anti-coercition. Ouais. Ceci étant dit, alors deux points, je dirais. Le premier, c'est vrai que l'Europe doit être unifiée pour répondre à cette menace américaine. Ceci étant dit, il est difficile de voir aujourd'hui une Europe unifiée quand on voit le problème de, enfin le moteur franco-allemand déjà qui est en panne, et puis les dissensions au niveau européen, tant sur d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. On sait que chaque économie n'est pas dépendante de la même manière du marché américain, et il se peut que au moment de voter, puisqu'il faut une majorité qualifiée pour mettre en place cet instrument anti-coercition, il n'est pas dit que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Donc vous êtes plus pessimiste qu'Élire Fabrice sur la capacité de l'Union européenne à répondre à la guerre commerciale lancée par les États-Unis.
Plus dubitatif actuellement, c'est vrai, même si j'espère que l'Union européenne a quand même tiré les enseignements du premier mandat de Trump et surtout du deuxième mandat qui paraît beaucoup plus agressif que le premier. Le deuxième point que je voulais évoquer, et là je suis entièrement d'accord avec ma collègue, c'est la question du multilatéralisme. Il me semble que ça, c'est une voie qui n'a pas été suffisamment exploitée. Alors, ça pourrait être une forme de mini-latéralisme, donc peut-être pas toute l'OMC, mais plusieurs membres. On voit que le Canada est attaqué, le Mexique est attaqué, la Chine sont attaqués. Et pourtant,
ce serait une forme de résistance mondiale à Donald Trump.
Je pense que ça donnerait plus de crédibilité, parce que finalement, sa stratégie de Donald Trump, c'est diviser pour mieux régner. Et on le voit, il ne fait pas ses annonces. Il rythme ses une annonce telle semaine, une autre la semaine suivante. Il promet à l'Europe des sanctions commerciales, mais plus tard. Et donc ça, son objectif, c'est de négocier, comme il sait le faire, de manière bilatérale. Si demain, le Canada, l'Europe, le Mexique, la Chine se parlaient un peu plus pour dire non, on refuse ça, parce qu'on respecte le cadre multilatéral, peut-être que les milieux d'affaires aux États-Unis réagiraient et diraient « Attendez, on n'est pas contre le commerce mondial ».
Vincent Vicard, alors c'est intéressant, c'est cette idée finalement de tous les pays qui sont attaqués économiquement par Donald Trump, donc Mexique, Canada, Union européenne, qui se mettraient ensemble. Est-ce qu'économiquement ça peut être l'avenir pour l'Union européenne qui est dans cette impasse dans la relation transatlantique aujourd'hui?
Alors, ça ne peut pas être l'avenir dans le sens où on ne va pas pouvoir se passer des États-Unis comme grand marché du jour au lendemain. Il y a une des dimensions, ça a été évoqué par certains de dire on pourrait se tourner vers la Chine, par exemple. Et justement, du point de vue des États-Unis, ça pourrait rapprocher l'Union européenne de la Chine et donc ça serait défavorable dans leur confrontation avec la Chine. Du point de vue commercial, il y a un sujet qui est que et la Chine et l'Union européenne ont des excédents commerciaux importants. Et donc des excédents commerciaux, ça veut dire qu'il y a une question de demande. Où va cette demande? On produit trop et on consomme pas assez de biens manufacturés. Et justement, le consommateur final aujourd'hui, ce sont les États-Unis, et c'est le sujet qui est porté sur les déficits commerciaux par Donald Trump, sur la désindustrialisation. Et donc de ce point de vue-là, c'est assez difficile de voir tous ces pays qui sont plutôt des pays qui ont des excédents commerciaux vis-à-vis des États-Unis, qui pourraient se mettre ensemble et se passer du marché américain de ce point de vue-là. Ce qui n'empêche qu'on peut éventuellement intensifier les échanges avec certains de ses partenaires, et notamment pour l'Union européenne qui a peu de ressources minérales et très peu d'hydrocarbures, notamment par exemple le Canada, l'Australie qui sont des pays qui en ont beaucoup. Il y a une logique à approfondir ces relations de ce point de vue-là. Mais il y a aussi une logique pour tous ces pays à aussi développer leur marché intérieur, développer leur demande intérieure, et donc moins, de manière générale, moins dépendre du reste du monde. Ouais. Et c'est une des dimensions qui peut... Moi, il me semble que Donald Trump renforce la nécessité pour les pays européens et de dépendre plus de leur marché intérieur, plus de leur demande intérieure. Et donc, ça va à l'encontre des stratégies qui ont été mises en place depuis une vingtaine d'années de réduire plutôt les salaires et donc la demande. Et puis aussi d'orienter leur économie et de faire une vraie politique industrielle commune qui leur permettrait de faire concurrence aux grandes entreprises américaines et aux grandes entreprises chinoises aussi.
Mais ça renvoie à ce que nous disait Jean-Baptiste Lully sur à quel point les Européens sont assez unis pour s'entendre sur une même politique. C'est intéressant parce que vous parliez de la dépendance. Effectivement, l'Union européenne peut être moins dépendante des États-Unis, vous nous dites, Vincent Vicard. Et Elvire Fabry, moi, je vais vous poser la question. Est-ce que l'Union européenne peut encore compter sur les États-Unis aujourd'hui? Puisque c'est la question qui se pose. Après la semaine dernière, le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y a le Jean-Pierre Molny, qui est directeur adjoint de l'IRIS, qui a dit que lors de ce coup de téléphone, mercredi dernier, ça a sans doute mis fin à 75 ans de relations transatlantiques. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que les États-Unis peuvent encore compter l'Union européenne peut encore compter sur les États-Unis, notamment pour assurer sa sécurité? C'est la question du moment. Et ça relance encore une fois le serpent de mer de l'Europe de la défense.
Absolument, c'est la question fondamentale. C'est la question que ne se posaient plus les Européens toutes ces dernières décennies. On en avait un tout petit peu douté pendant la première présidence Trump, lorsqu'il faisait mine de retirer son soutien à l'OTAN. Mais il faut bien voir que l'OTAN est d'abord un énorme supermarché américain pour inciter les partenaires à aller acheter de l'équipement militaire sur étagère aux États-Unis. Simplement, là, je crois qu'on est un cran plus loin. C'est-à-dire que Donald Trump décide ou pas de se retirer de l'OTAN, ce serait surprenant, parce que ce serait vraiment se passer de ce levier pour l'industrie de défense américaine. En revanche, il y a vraiment un doute qui s'est instauré sur le fait que, éventuellement, Donald Trump soit prêt à envoyer, comme on le dit en anglais, « boots on the ground », des soldats sur le continent européen, si l'Union européenne, si un État membre de l'Union européenne était directement confronté à une invasion russe, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Et là, ce doute-là, ouais. il devient beaucoup plus profond. Et on voit bien qu'il y a actuellement une défiance profonde qui s'est créée, pas simplement auprès du côté des Européens, mais à travers le monde. C'est-à-dire que la politique d'un Donald Trump qui vise à prioriser, donner la priorité aux intérêts américains, je dirais que c'est la logique de tout président, de tout chef d'État. Mais là, on voit que c'est avec une logique de prédation. Qui se passe complètement de tout accord commercial, de toute règle du droit international, et ça devient beaucoup plus offensif.
Vous qui êtes chercheuse sur la géopolitique et l'agriculture fabrique, comment est-ce que l'Europe doit répondre au fait que finalement les États-Unis disent qu'ils ne comptent pas sur les 27 pour négocier la fin de la guerre en Ukraine ? Il en va aussi de la survie, de la crédibilité de l'Union européenne. Encore une fois, l'Ukraine est sur le continent européen.
La première question, c'est d'abord que Donald Trump entend se passer de Zelensky pour cette négociation avec Poutine. Et on commence même à se demander si c'est vraiment une négociation qui serait engagée, alors qu'il a déjà fait des concessions énormes dès ses premiers échanges avec Vladimir Poutine. Il entend se passer de Zelensky à la table des négociations, également des Européens. Alors qu'on voit bien que pour les Européens, le soutien qu'on a apporté depuis le début de la guerre à l'Ukraine est d'abord pour soutenir l'engagement démocratique de l'Ukraine. Mais derrière, il y a aussi un enjeu de sécurité pour l'Union européenne elle-même. Donc la place des Européens doit être à la table des négociations.
Oui, elle doit être. Mais comment l'Europe peut imposer cela ?
Eh bien, c'est bien.
C'est tout l'enjeu de la réunion qui a lieu aujourd'hui à Paris.
Mais ça résume bien l'échec du désengagement européen sur leur capacité de défense. Et là, on voit bien que lorsque...
Ça montre l'affaiblissement de l'Union européenne aujourd'hui.
Ça montre une myopie, une myopie totale ces dernières décennies, la fois sur le tournant qu'ont déjà pris amorcé les Américains depuis pré-Trump, depuis les deux précédents présidents, même depuis Bush déjà, qui se tournent vers l'Asie et dont la priorité, c'est de contrer la montée en puissance de la Chine. Et il s'agit bien pour l'Union européenne, là, de passer à l'âge adulte. Ouais. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, puisqu'en effet, il s'agit d'investir dans une industrie de défense et dans des capacités d'industrie de défense et avoir une stratégie européenne.
Mais elle peut assurer elle seule sa défense, l'Union européenne, aujourd'hui, elle est capable de cela ?
Aujourd'hui, je crois qu'il faut
Est-ce
faire le constat qu'elle ne serait pas...
en vue d'eux, je veux dire.
À poser la pierre, oui. Ouais. Aujourd'hui, si elle devait se défendre, je dirais les ressources, les capacités que l'on a en stock et qui finalement montrent beaucoup à la fois de doublons et de trous dans l'équipement européen pour ce qui serait une réponse massive, ne sont pas à la hauteur. On sait que la France couvre l'ensemble du spectre de l'armement, mais avec des capacités, des volumes qui seraient insuffisants pour assurer une manœuvre importante.
En tout cas, l'Europe aura du mal à se détourner des États-Unis, si je vous suis à l'issue de ce débat ce soir, parce que les dépendances, mais interdépendances, je retiens, vous avez dit des deux côtés, États-Unis, Europe, sont très forts. Merci beaucoup à vous trois. Elvire Fabry, chercheuse senior sur la géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors, Jean-Baptiste Velu, merci. Professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris, et Vincent Vicard, économiste au Centre d'études
études prospectives et d'information internationale. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat et Claude Battista à la réalisation. Allez, RFI Soir se poursuit dans 10 minutes, le grand journal du soir. Et puis après, ce sera Afrique Soir dans 30 minutes, la première édition. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Romain.
Quel programme ce soir, Sylvie ?
La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le M23 et l'armée rwandaise ont pris le contrôle de Bukavu, la capitale du Sud Kivu, ce week-end. Une occupation confirmée et dénoncée par le gouvernement congolais à Kinshasa. Pas de sanctions ni de plan de sortie de crise à l'issue du sommet de l'UA qui s'est tenu à Addis Abeba. Le Rwanda fait-il peur ? Pourquoi ce malaise ? On en parlera avec notre invité. Et puis au plan diplomatique, les responsables religieux et catholiques et protestants multiplient leurs consultations. Vous l'entendrez. Dans l'actualité africaine également, l'Est et le centre-nord du Burkina Faso frappés par une série d'attaques djihadistes ces derniers jours. La fin de la grève des enseignants au Mali après 3 semaines de conflit, le gouvernement de transition ouvre enfin le dialogue. Et puis un plan d'austérité annoncé au Sénégal, parmi les mesures, la baisse des salaires des ministres.
Eh bien, à tout à l'heure, Sylvie Berruet, dans 30 secondes, le grand journal du soir sur